17h sur Radio Orient. Bonsoir à tous, votre rendez-vous d'information, Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, les transports perturbés par la neige et le verglas toute la matinée dans le nord et l'ouest de la France. Mais après la neige, la tempête Goretti va frapper une partie du territoire à partir de jeudi. L'armée syrienne a bombardé les quartiers kurdes d'Alep après la fuite de milliers d'habitants. Dans le dossier du jour, l'inquiétude des députés français au sujet des menaces de Donald Trump sur le Groenland. Enfin, nous ferons le point sur la CAN avec Mounir Kamouri. Neige et verglas ont perturbé les transports ce matin dans une partie du nord et de l'ouest de la France. Alors que la neige commence à fondre, la circulation des bus reprend progressivement en Île-de-France. 100% des vols sont assurés à Roissy, des perturbations signalées encore à Orly. Seuls 9 départements restent en vigilance orange, neige, verglas demain. Attention, Météo France annonce à présent des vents violents sur le nord de la France à partir de demain. La tempête, baptisée Goretti, est qualifiée de bombe météo. De la Bretagne à la Normandie, des Pays de la Loire au bassin parisien et au Hauts-de-France, les rafales pourrait atteindre de 100 à 130 km/h de moyenne. 4 départements ont été placés en vigilance orange pour les vents, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados et la Manche. L'armée syrienne a commencé à bombarder les quartiers kurdes d'Alep. Les forces armées syriennes ont décrété ces quartiers zone militaire. Des milliers de civils ont fui cette zone marquée par des affrontements meurtriers hier entre l'armée et les combattants kurdes. En Iran, le président Pezeshkian appelle les forces de l'ordre à ne pas s'en prendre aux manifestants. Il demande aussi de distinguer les manifestants des émeutiers armés qui attaquent des commissariats et des sites militaires. Dans la ville de Lordegan, dans le sud-ouest, une manifestation a fait 2 morts et 30 blessés, selon l'agence de presse iranienne Fars. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU évoque une discrimination systématique exercée par Israël à l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie. Dans un nouveau rapport, l'ONU estime que cela s'apparente à une forme de système d'apartheid. Les États-Unis se sont emparés d'un pétrolier battant pavillon russe et lié au Venezuela, une poursuite qui a duré plus de 2 semaines à travers l'Atlantique. Washington a ensuite annoncé la saisie d'un deuxième pétrolier visé par des sanctions dans la mer des Caraïbes. Enfin, les obsèques de Brigitte Bardot. Après une cérémonie religieuse, l'icône du cinéma français a été inhumée au cimetière marin de Saint-Tropez, où reposaient déjà ses parents. Lors d'un hommage populaire, ses fans ont ensuite rappelé son combat pour la défense des animaux. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Après avoir capturé le président du Venezuela, Donald Trump va-t-il s'emparer du Groenland? Il dit étudier plusieurs options pour exploiter le Groenland, y compris utiliser l'armée. Mais le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, assure lui que les États-Unis n'envisagent pas d'utiliser la force militaire pour s'emparer du Groenland. Rappelons que ce territoire appartient au Danemark, membre de l'Union européenne. Des menaces qui inquiètent les députés français. On écoute à ce sujet le député Les Républicains, Philippe Gosselin.
Il faut rappeler que le Groenland est un territoire stratégique et que les Chinois, comme les Russes, évidemment, s'y intéressent particulièrement. Donc il ne faut pas être naïf, il ne faut pas nécessairement s'offusquer que les États-Unis voient un intérêt stratégique avec le Groenland. Une fois qu'on a dit ça, ça ne justifie en rien, bien évidemment, une forme de captation ou de transaction ou je ne sais quoi qui viserait à incorporer de force et évidemment ce territoire, en rappelant que c'est une dépendance, alors on peut le regretter, c'est le fruit de l'histoire, etc. Et peut-être qu'il y aura une indépendance du Groenland à un autre moment, mais pour le moment, c'est une dépendance européenne, d'un pays membre évidemment de l'Union européenne, donc il est hors de question de ne pas réagir. Et il faut prévenir les États-Unis qu'il y aurait des sanctions importante il devait y avoir, alors je ne veux pas dire une invasion, hein, faut pas non plus rêver, mais des agissements que la communauté internationale ne pourrait que condamner. Non, le Groenland n'est pas la propriété des États-Unis. Qu'il y ait des accords militaires, c'est déjà le cas. Hein, il y a déjà une base militaire américaine au Groenland. Qu'il y ait la volonté de développer des politiques contractuelles, y compris en termes de sécurité, de défense. Pourquoi pas ? Mais là, on est à un autre niveau, celui d'entente entre les États, mais ce n'est nullement ce qui, aujourd'hui, apparaît dans les échanges. Et d'ailleurs, on a bien vu le Premier ministre danois monter au créneau, le Premier ministre du Groenland, puisque c'est un territoire aussi autonome avec son propre gouvernement, monter au créneau. Et il est important que l'Union européenne montre qu'il n'est pas question de lâcher ou d'abandonner une partie de son territoire européen.
Elle en a réellement les moyens, mais oui, de l'empêcher,
elle en a les moyens. Enfin, écoutez, les Américains sont capables d'augmenter des droits de douane, de faire des menaces militaires, des pressions, etc. L'Europe n'est pas démunie. Elle aussi peut montrer l'écrou si besoin. Et alors après, c'est une forme d'escalade. Elle n'est pas souhaitable. Donc, il faut prendre le temps de poser tout ça et de laisser un peu infuser en évitant la précipitation. Mais vous savez, gouverner, c'est prévoir. Donc, puisqu'on sait que le délai peut-être de 20 jours, c'est celui qui a été donné par Trump il y a 24 heures, jusqu'à 2 mois, et peu importe même si c'était 3 mois ou 4 mois, puisqu'on sait que la menace existe, il faut se préparer à une riposte qui soit graduée, proportionnée, en ne traitant sans doute pas les États-Unis comme on traiterait d'autres territoires. J'oublie pas qu'il y a des alliances avec l'OTAN, par exemple, qu'il y a des liens historiques et culturels. Ne faisons pas non plus des USA une dictature. Faut savoir raison garder quand même. Hein. Mais tout ça se prépare et on doit être unis, ce qui malheureusement n'a pas été tout à fait le cas dans l'épisode du Venezuela. Donc évitons de reproduire les mêmes erreurs.
Le député des Républicains Philippe Gosselin. À gauche, la députée LFI Aurélie Trouvé déplore un affaiblissement de l'Union européenne en raison notamment de la réaction du président Macron après la capture de Nicolas Maduro.
Elle est affaiblie, mais elle s'affaiblit elle-même en réalité, et en premier lieu le chef d'État français. Vous comprenez bien que quand la réaction quasiment de féliciter Donald Trump de violer le droit international, parce que ça revient à cela, hein, quand le président Macron dit « Ah bah tant mieux, ça va, grosso modo, ça va permettre de libérer le peuple vénézuélien ».
Même s'il a critiqué la méthode.
Il l'a critiqué dans un second temps, il ne l'a pas critiqué dans son tweet de départ, et c'est ça qui est extrêmement grave. C'est tellement grave que Donald Trump s'en est fait féliciter en retweetant le message du président Macron. C'est une véritable honte, premièrement, pour nous tous, et puis surtout, c'est gravissime, parce que, en vérité, ça signifie la vassalisation de la France et de l'Europe vis-à-vis des États-Unis plutôt qu'une résistance et une action forte au nom du droit international. Parce que ce qu'a fait Donald Trump, c'est une violation grave du droit international. Donc, en réalité, on a un président de la République et, dans une moindre mesure, l'Europe qui sont vassalisés par Donald Trump. Et l'Europe et la France ne réagissent pas, justement. Plutôt, elles réagissent en acceptant bien volontiers cette capitulation.
L'Union européenne qui risque d'être confrontée aux velléités de Donald Trump. Donald Trump qui veut prendre le Groenland. Comment soutenir le Danemark ? Comment l'UE peut-elle soutenir le Danemark ?
C'est ça qui est gravissime dans la réaction du président Macron et d'un certain nombre de leaders européens. Je mets l'Espagne de côté parce que je pense que le chef d'État espagnol, lui, justement, a agi avec un front d'État sud-américain pour réagir, pour s'opposer à Donald Trump et à sa violation du droit international. Mais hormis cela, les chefs d'État européens et particulièrement le président Macron ont au contraire donc préparé cette capitulation et sont en train, justement, et vous le dites, de se piéger, puisque la doctrine Monroe de Donald Trump, elle va jusqu'au Groenland. Hein. Il considère l'ensemble du continent américain, dont fait partie pour lui le Groenland, comme quasiment la propriété naturelle des États-Unis. Les États-Unis ont droit de regard sur la gestion pour Donald Trump de l'ensemble du continent américain, dont le Groenland. Et c'est sûr que la réaction de l'Europe et du chef d'État français, eh bien, quelque part, nous font tirer une balle dans notre pied vis-à-vis du Groenland qui appartient au Danemark.
La députée Aurélie Trouvé, des interviews réalisées par François-Xavier de Calonne. Et c'est donc Mounir Kamouri que nous allons retrouver pour parler de la Cannes. Bonsoir Mounir.
Bonsoir Loïc.
Alors hier, c'était les derniers huitièmes de finale de la Cannes. Que faut-il en retenir ?
Oui, c'était les deux dernières qualifications et elles ont été marquantes. D'abord, la Côte d'Ivoire, tenant du titre, a déroulé face au Burkina Faso avec une victoire nette, 3-0, maîtrisée de bout en bout. Et puis l'Algérie, qui a dû aller au bout du suspense dans la prolongation face à une RD Congo très solide. Il a fallu attendre la 118e minute pour voir le missile d'Adil Boulbina délivrer l'Algérie. Et les Fenech affronteront l'impressionnante équipe du Nigeria et la Côte d'Ivoire affrontera l'Égypte de Mohamed Salah en quart de finale.
Et dans votre émission ce soir, Mounir, vous revenez sur un geste autour d'un supporter congolais et il s'agit d'un moment fort de cette CAN.
Oui, ce n'est pas un supporter comme les autres. Il est devenu la mascotte un peu de cette CAN après le Lion Assad. Michel Kouka Boladinga, c'est son nom. Il est resté debout, immobile, comme figé, de manière solennelle pendant toute la durée des matchs du Congo depuis le début de cette CAN. Il rendait ainsi hommage à Patrice Lumumba, figure historique de l'indépendance congolaise. Et lors du match de l'Algérie contre la RD Congo, il y a eu une polémique autour d'un joueur algérien qui s'est amusé, on va dire dans l'euphorie, à reproduire cette pose, ce qui a déplu à un bon nombre de personnes. Cette histoire a été de courte durée car la fédération algérienne a convié ce supporter dans l'hôtel des joueurs et les excuses de Mohamed Amoura sur les réseaux sociaux ont fini par mettre fin à cette polémique.
Enfin Mounir, tout au long de cette CAN, on a vu de fortes pluies tomber sur les stades marocains. Alors comment les terrains ont-ils réussi à rester praticables ?
Eh bien, c'est grâce à une technologie de pointe. On en parlera un peu plus longuement dans l'émission ce soir. Mais les stades marocains sont équipés de systèmes de drainage ultra performants, de souffleries souterraines et de dispositifs de ventilation qui permettent à l'eau de s'évacuer rapidement et à la pelouse de respirer. C'est un vrai atout pour le spectacle et une démonstration du savoir-faire aussi du Maroc en matière d'infrastructure sportive.
Merci Mounir Kamouri. On vous retrouve à 18h20 sur Radio Orient. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Excellente soirée à tous.